pour vous, avec vous, Radio Occitanie vous accompagne 24 heures sur 24.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciates et bienvenue dans votre émission Page à Page, où nous nous retrouvons donc le jeudi de 10h à 10h30 sur les ondes de Radio Occitanie. Aujourd'hui, je reçois Benoît Séverac. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Pour son livre jeunesse, le premier dans cette catégorie, Silence, aux éditions Syros. On en parle dans quelques instants après la petite page d'info. Pour vous signaler du théâtre, ce soir et ainsi que le 25 et le 26 mai également, à 21h, c'est au Grenier Théâtre qui se situe 14 impasse de Gramont à Toulouse. Ce sont trois pièces courtes de Tennessee Williams et vous pourrez y retrouver l'auteur Philippe Vidal que j'avais invité à page pour son livre, son recueil de nouvelles, La 65e case, hein, puisqu'il nous avait parlé qu'il faisait du théâtre. Donc il faut réserver au 05 61 48 21 00, donc des pièces de Tennessee Williams avec, entre autres, bien sûr, Philippe Vidal. Ensuite, une rencontre à la Maison des Écritures à Lombez, 4 rue Notre-Dame. C'est pour demain, vendredi 25 mai à 15h. Écrire l'Europe, c'est une action menée auprès de collégiens et de lycéens de Midi-Pyrénées par l'association Graphite. C'est un tandem d'écrivains français et étrangers autour de l'Europe et de l'écriture au moyen d'Internet. Alors, deux écrivains seront présents pour cette manifestation. Muriel Romana, qui est auteur et qui organise des ateliers d'écriture, qui est auteur de la région, de notre région, et qui organise des ateliers d'écriture pour les enfants. Et puis Andreu Martin, un auteur barcelonais. Voilà, c'est demain soir à Lombez. Et puis je termine cette page info pour vous dire en avance pour mercredi prochain, le 30 mai, de 20h30 à 22h30 à la librairie Ombre Blanche, qui est toujours 50 rue Gambetta à Toulouse, une rencontre avec Yves Charnay et son nouveau livre intitulé « Miroir » de Julien L. aux éditions Le Diable Vauvert. Il était venu nous parler à page de Prose du Fils. Donc c'est mercredi prochain à Ombre Blanche.
Page à page, Claire Ambille.
Voilà, alors Benoît Séverac, tu étais venu nous parler de ton livre Rendez-vous au 10 avril, il y a 2 ans hein, déjà.
Oui.
Et alors on rappelle un petit peu qui tu es. Tu enseignes l'anglais à l'école vétérinaire de Toulouse. D'ailleurs,
oui, oui.
Voilà, mais d'ailleurs...
Je devrais y être à cette heure-là.
Oh ben, ils le savent, que tu écris,
oui, ils savent
voilà,
que
tes élèves le savent.
Ça,
voilà,
je suis à la radio ce matin.
Un professeur.
Non, c'est pas du direct, en fait, on va dire.
Ah, mais si. Non, mais en plus, rendez-vous au 10 avril, tu avais choisi le cadre de l'école vétérinaire ce polar historique. Voilà, c'était... Alors, tu es aussi un musicien, puisque dans une fanfare de jazz latino-rock...
Oui, je fais de la musique, puisque je ne suis musicien.
Oui, mais
je lis des notes sur une partoche avec des copains
et
on s'amuse bien. Voilà,
et ben voilà, c'est l'essentiel.
Non, mais j'ai trop de respect pour les vrais musiciens pour dire que je suis musicien moi-même.
Oui, mais bon, tu fais quand même quelque chose autour
de
la musique.
Ça, oui.
Tu fais pas que l'écriture, voilà. Et tu es aussi membre au conseil d'administration de Toulouse Polar du Sud.
Plus membre du conseil. Non, mais je suis toujours à l'association.
Ah,
mais je me suis désengagé du conseil d'administration.
Trop de responsabilités.
J'avais pas assez de temps pour écrire.
Faire un choix. Ouais. Voilà. Mais voilà, tu t'occupes toujours.
Non, je suis toujours très près,
très
ça.
Impliqué,
je m'occupe plus particulièrement de tout ce qui est traduction, puisque comme il y a beaucoup d'hispanophones à Toulouse Polar du Sud, mais moins d'anglophones, donc je m'occupe de ça. Ouais.
D'accord. Alors, comme je disais, donc auteur avec 2 romans. Le premier, ça a été Les Chevelus, aux éditions TME en 2007, mm-hmm. qui a été traduit d'ailleurs en anglais depuis et qui a obtenu 3 prix littéraires. Mm-hmm. Ce premier, c'était un roman, donc roman historique noir, roman noir historique. Et puis donc, tu as récidivé chez le même éditeur en 2009 avec Rendez-vous au 10 avril. Mm-hmm. et pour lequel donc je t'avais reçu à Page à Page.
Bel éditeur que tu aimes, ouais, une belle rencontre.
Oui, voilà, une maison d'édition voilà, toulousaine, de chez nous, quoi, voilà, et avec Sandrine Bamessi comme responsable, qui est très, très sympathique. Et alors aujourd'hui, tu reviens avec Silence, un premier livre jeunesse, aux éditions Syros, et qui a obtenu en mars dernier le prix adolescent de la ville de Balma, dans le cadre des rencontres du livre et du vin. Mmh. Et puis un autre prix, celui de Mirande, de la ville de Mirande.
Oui, oui, il y a eu un premier salon, une première édition de leur salon jeunesse qui s'est tenu il y a 15 jours. Et un beau salon, très chaleureux, très, très fédérateur d'énergie, comme ils savent faire là-bas. Hein, ils organisent le fameux Country Mirande, le festival de country, là, qui est une renommée mondiale maintenant. Et ils sont en train de faire quelque chose de très, très beau avec le livre jeunesse. Et voilà, ils m'ont fait le plaisir de décerner le prix du meilleur roman jeunesse de 2011. Donc,
parce que parce qu'il est sorti 2011, en septembre 2011. Voilà.
Et voilà, je suis donc très content d'en parler ce matin à la radio. Un beau festival qu'il faut suivre.
Mais en tout cas, c'est mérité. Enfin, les deux prix, que ce soit celui du prix adolescent de la ville de Balma ou celui de Mirande, c'est un prix très mérité pour ce livre jeunesse. Hein.
Enfin, ça, c'est pas à moi de le dire, mais ce qui fait plaisir, c'est
moi, je le dis.
Ce qui fait plaisir, c'est quand c'est les gens qui le décernent. Quand on voit qu'ils décernent, ce sont des prix de lecteurs.
Il y a une reconnaissance.
Ce sont des prix de lecteurs et donc de jeunes qui sont très impliqués dans la lecture, de 11 à 17 ans, on va dire. Et ce sont des moments très, très émouvants.
Bah oui, j'imagine, parce que voilà, c'est le public qui choisit, choisi ce livre-là. Donc c'est un livre jeunesse, bien sûr, pour les grands ados, mais à partir de la 6e, on peut dire, je pense.
Oui, enfin...
Après, ça dépend de la maturité.
Officiellement,
des enfants.
Le créneau, c'est 13-18 ans. Mais, en fait, les prix sont décernés par des gens qui sont dès la 6e.
Ouais,
donc,
voilà,
en fait, ça va de 11 à. Et après, je sais pas, moi, je vois pas mal d'adultes qui le lisent et qui trouvent leur compte
ans,
aussi.
Moi, 18 ans, je trouve que c'est réducteur d'arrêter à 18 ans.
De toute façon, littérature jeunesse, moi, je me souviens avoir lu des histoires pour mes gamins à l'âge de 5-6 ans. Et j'ai lu, je leur en ai lu jusque plus tard. Mais des histoires dites vraiment. Pour les gamins qui m'ont quand même fait réfléchir
m'ont
interpellé, touché. Bon.
Parce que ce livre, c'est pour les ados, mais c'est aussi pour leurs parents.
Clairement, c'est un livre pour les familles.
Tout à fait. Alors, il est adressé à Jules et Jeanne. Alors, ce sont deux prénoms des personnages, on va dire, principaux du livre, mais qui sont aussi donc les prénoms de tes enfants.
Mes enfants vont bien. Il ne leur arrive absolument pas ce qui arrive.
Oui, parce que
héros,
on va voir un
Jules.
Petit peu l'histoire, voilà.
Oui, non, donc ils vont très bien. C'était un hommage que je voulais leur rendre. J'avais jamais utilisé leur prénom dans des romans. Je leur ai demandé l'autorisation.
Oui, ils m'ont
autorisé à faire ça.
Mais
maintenant, je le regrette un peu parce qu'il y a plein de gens qui m'ont appelé. Ben
oui.
Est-ce que Jules va bien?
Bon,
mon fils, on lui a fait des réflexions aussi, je crois, au lycée. Ah bon, on ne savait pas que tu prenais l'ecstasy. Bon. et ça n'a rien à voir, c'est fiction et réalité. Mais je regrette un peu maintenant. Mais bon, tant pis.
Non, c'est un hommage. Donc, Jules et Jeanne, qu'on retrouve donc dans ce livre. Alors, le titre, il est très porteur aussi, Silence, on va le voir, parce que le silence va entourer Jules quand il va se réveiller à l'hôpital. On va raconter un petit peu l'histoire. Bon, pas tout, parce qu'il faut garder le suspense pour nos lecteurs, nos auditeurs, futurs lecteurs de ce livre. Mais donc, voilà, le titre et la couverture est très belle aussi.
Oui, c'est une couverture, nouvelle version de la collection Rat Noir chez Syros, ils ont relooké un petit peu leur couve et la mise, tout, la maquette. Et
c'est
tout.
Moderne, quoi.
Et
c'est coloré, très, très moderne, belle, et puis ça évoque tout à fait, c'est évocateur du contenu du livre.
Tout à fait, Pépito, le nom de l'infographiste qui a chez Syros, il s'appelle Pépito, je connais pas son nom de famille, mais c'est quelqu'un de très doué, qui a une belle lecture.
Alors, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le côté journal, puisque c'est construit d'une façon originale. C'est comme un journal de bord, un carnet de bord, un journal intime, c'est avec des dates, c'est daté.
Mais je crois que c'est
situé dans le temps et pour mesurer le temps qui s'écoule parce que c'est long.
Vous parlez de journal intime, mais je crois que à l'adolescence, c'est quelque chose d'important. Et puis c'est aussi pour égrainer le temps, parce que là on n'est plus dans les jours, on est dans les heures et les minutes. On égraine le temps qui passe pas très vite quand on est en milieu hospitalier et particulièrement quand on est sourd, je pense.
Le silence, on est enveloppé de silence. Donc l'année, ça commence le 30 septembre, d'une année qui n'est pas précisée, mais enfin c'est de toute façon le sujet, le thème, c'est actuel, Donc 30 septembre et ça finit le dernier chapitre est daté du 10 mai. Mais bon, entre les deux, il s'est passé plein de choses, et le 10 mai, c'est un peu l'embellie. Enfin, je veux dire, c'est le côté, c'est plein d'espoir, c'est prometteur.
Rien à voir avec les élections récentes ou même de celles de 81.
Oui,
en fait,
je
me rends compte que 10 mai, c'est connoté, mais
tout à
fait, c'est absolument involontaire.
Mais
finalement, ça me va bien.
Alors, l'histoire se passe à Toulouse. En plus, c'est agréable parce qu'on reconnaît forcément, tu cites des noms d'endroits que l'on reconnaît, que l'on connaît, et ça fait plaisir, parce que Jules est un lycéen de 15 ans qui est à Bellevue, au lycée Bellevue à Toulouse. Et donc, il se réveille, le début de l'histoire, c'est qu'il se réveille à l'hôpital Purpan. Il souffre de vertiges et de maux de tête. Et il s'aperçoit, en fait, qu'il n'entend plus rien. Il est sourd.
Mmh. Oui, voilà, c'est le côté noir du roman.
Ouais. Le choc du silence.
J'avais choisi de plomber l'atmosphère d'entrée.
Ah oui, les premières pages, on y est.
Non, mais voilà, c'était le but, c'était... ça, c'est irrémédiable, c'est comme ça, c'est la donne avec laquelle il va falloir qu'il travaille pour rebondir. Bon, après, il y a une espèce d'analyse rétrospective de ce qui s'est passé.
Bah oui, parce qu'il faut qu'il se rappelle, parce qu'il a des maux de tête, il a des vertiges. Bon, les médecins lui apprennent qu'il a fait un coma de plusieurs jours et qu'après, donc, un traumatisme acoustique.
Oui, en fait, l'idée, c'est que c'est un gamin de bonne famille, on va dire.
Ah oui, une famille.
Il est aimé, il est aimant, il marche bien à l'école, tout va bien. C'est pas un gamin à problème, et il fait une connerie, on est à la radio mais je peux dire des gros mots, il fait une connerie une fois, quoi, comme beaucoup de gens, il fait une fois, il fait le mur, et pour impressionner les copains et
surtout
copine,
sa copine, Camille,
il prend de l'ecstasy, il est dans une rave, il tombe dans le coma parce qu'il y a une cochonnerie dans le produit,
oui, c'est frelaté,
souvent, et il tombe dans le coma près des baffes, près du système sono,
qui est à fond,
personne ne s'en rend compte, il reste là
toute la nuit, près
des baffes, et puis quand on le retrouve, il est dans le coma, toujours, mais quand il se réveille, son nerf auditif est cramé, et il est sourd à vie. Donc après, le roman commence comme ça, et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? C'est comment on se reconstruit ? C'est un roman initiatique, véritablement, c'est comment on se reconstruit, comment on rebondit, comment on passe du sentiment de culpabilité que l'on ressent, parce qu'on met tout le monde dans le malheur, on bouleverse tout l'équilibre de
la famille.
Également, comment on passe de la colère des parents contre soi, comment on passe du malheur à une prise de responsabilité. On passe de la culpabilité à la responsabilité. Comment on rebondit, comment on se reconstruit par rapport à ça. Et il y a aussi, bon, là-dessus, une enquête policière, sans en dire trop. Il y a une enquête policière
En même temps, il y a l'enquête policière pour savoir qui lui a vendu l'ecstasy pour essayer un peu de remonter la filière de la drogue.
Voilà,
pour
le produit continue à circuler. Donc,
il fait un mort d'un jeune de 16 ans.
D'autres jeunes sont victimes de l'ecstasy qui circule. Donc lui, le dilemme, c'est le dilemme vieux comme le monde, comme Corneille. Si je parle, je balance mes copains parce qu'ils sont impliqués dans le trafic et je suis grillé et c'est fini. J'aurai plus de copains et à 15 ans, c'est important les copains.
Les copains, c'est important, c'est vrai.
Si je parle pas, je suis complice de ça. Donc, décemment, je peux pas. Et il y a une troisième voie qu'on ne donnera pas, mais il y a une troisième voie qui fait que.
Ça
finira mieux que dans une tragédie grecque. Quoi.
Tout à fait. Ouais. Alors, donc, dans le milieu hospitalier, bien sûr, il va communiquer avec des bloc-notes et des crayons, même une ardoise magique pendant un temps. Et oui, il faut s'adapter quand on ne peut plus parler. Au début, il a du mal à doser sa voix. C'est tout un apprentissage. La place de Damien, le personnage de Damien, l'infirmier, est importante. Il sait l'écouter et sans le juger parce que ses parents, comme tu disais, ils sont au début, ils sont très en colère. acteurs, ils comprennent pas, ils veulent se comprendre, ils veulent savoir pourquoi il a pris de la drogue, etc. Alors que Damien a l'oreille attentive de quelqu'un qui n'a pas le lien affectif qu'ont ses parents avec Jules.
Oui, alors le personnage Damien, c'est vraiment l'incarnation du corps médical pour lequel j'ai énormément d'admiration en général, et parce qu'ils sont là justement pour ça. Ils jouent ce rôle-là de soutien moral, de guide, et plus généralement. Je pense que le rôle de mentor dans la construction d'un jeune, en tout cas, je pense que ça a été mon cas. À un moment donné, les parents peuvent pas tout faire dans l'éducation, je pense, ni positivement ni négativement. C'est-à-dire, je pense qu'à un moment donné, un mentor, une bonne rencontre peut sortir de l'ornière quand on ne va pas bien, et ou au contraire vous vous enfoncez quand vous entraînez.
Oui, ça dépend si c'est une mauvaise. Ouais,
exactement.
Une
mauvaise, et je crois que moi je crois très fort à ce rôle de la personne mentor référent un petit peu dans la construction d'un ado. Donc Damien joue ce rôle-là. Ouais.
Et Jeanne aussi, j'aime bien le personnage de Jeanne, c'est sa petite sœur qui est en cinquième, hein, son grand frère, c'est important les rapports qu'ils ont tous les deux.
Je crois que, de toute façon, là, c'est enfoncer des portes ouvertes que de dire qu'il y a beaucoup d'amour entre un frère et une sœur, ou entre deux frères. Enfin, dans une fratrie, il y a beaucoup d'amour, et en même temps, c'est pas toujours idyllique, c'est pas toujours facile.
Voilà, oui.
Mais il y a quand même ce truc-là qui fait que, oui, elle avait un rôle à jouer. La sœur, encore une fois, dans la construction d'un individu, un frère ou une sœur peut jouer un rôle que les parents ne peuvent pas jouer et apporte quelque chose que les parents n'apportent pas. Bon, là, elle a apporté sa part aussi.
Oui, elle lui écrit une lettre. Parce que bon, l'hôpital, c'est long. Hein. Les visites, c'est égrené par les visites de ses parents qui, au début, ne se passent pas forcément bien. Après, il y a les interrogatoires de la police qui vient interroger Jules par rapport à son expérience de l'achat de la drogue. Il y a sa sœur, ses amis aussi. Mais là aussi, il y a un peu un malaise entre lui et ses amis. Après, sa copine Camille ne peut plus la voir parce que c'est les parents de la copine ne veulent plus qu'il se voit. Donc, il se retrouve un peu seul dans cette chambre d'hôpital, et c'est important. Donc elle lui écrit, Jeanne, elle lui écrit une jolie lettre à la fois drôle et à la fois émouvante. C'est l'importance de la famille dans ces moments-là, c'est important.
Disons que là, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'effectivement, dans un traumatisme ou dans un handicap ou dans une maladie, il y a énormément de lignes qui bougent autour de vous.
Eh oui.
Je, dans les relations, dans vos amis, vous avez énuméré tous les gens qui évoluaient autour de Jules. Mmh. Les lignes bougent, je pense que c'est ça qui se passe dans la vie. Et également, alors, ce qui est intéressant quand on dans un roman, ce qui est intéressant, c'est l'évolution des personnages.
Oui,
c'est pas qu'ils soient figés.
Oui.
Et je pense que la famille
évolue
en même temps que Jules. Pas toujours au même moment ni dans le même sens, mais voilà, ça bouge. Et c'est ça qui est intéressant, de voir comment les gens se repositionnent par rapport au handicap de Jules.
Oui, parce qu'à un moment, donc, Damien lui dit de faire une liste. La contre-liste positive, c'est une bonne idée. Faire la liste à Jules, il lui dit, fais une liste de ce que tu pouvais faire, ce que tu aimais faire, et fais une liste de ce que tu pourras faire et que tu aimeras faire, même si c'est différent de ce que tu faisais avant. Parce que bien sûr, écouter la musique, ce n'est plus possible, parce qu'il adore, comme tous les jeunes, écouter de la musique. Donc il y a plein de choses qu'il ne pourra plus faire, et le fait de faire cette contre-liste positive, c'est pour accepter son handicap qui vient de le toucher là de plein fouet, quoi.
Ouais, ça c'est une idée qui m'est venue. Le roman était déjà écrit, mais je l'avais orienté vers à la première lecture. Je l'avais orienté vers quelque chose de très plaintif, finalement. On était beaucoup dans le Jules se morfond, Jules se regarde un peu le nombril et se plaint. Bon, et ça, moi, en tant que lecteur, ça me pesait. J'avais envie qu'il se reprenne un peu en main. Et ça faisait partie de ces procédés-là. Je suis assez content de la petite trouvaille, entre guillemets. De façon très modeste. Je suis assez content d'avoir trouvé ce procédé narratif, parce que finalement, c'est rien d'autre que ça.
Pour faire avancer
le personnage.
Tout à fait. Et puis il y a le passage aussi l'écriture des SMS, parce que Jules communique avec ses parents lui offrent un portable alors qu'il n'en avait jamais eu avant. Mmh. Il lui offre un portable et donc il peut communiquer avec ses copains de lycée en envoyant des SMS. Donc là on a toute une partie de langage SMS. Donc j'imagine que tes enfants ont dû.
J'ai mis à contribution ma fille notamment qui commençait à communiquer avec ce genre de langage dans lequel pour lequel j'ai aucune compétence, mais bon, ça m'a bien fait rigoler de la mettre en contribution. Elle m'a appris
tout
quelques trucs
fait.
Et bon, je dis pas que je m'y suis mis, mais c'était marrant ça.
Non, c'est, puis voilà, c'est actuel, enfin je veux dire, c'est
ouais,
tout à fait dans la, j'avais
pas
dans
envie
l'air du temps.
Ouais, mais j'avais pas envie d'être démago non plus, parce que
non.
C'est un peu facile, on peut se dire, bon voilà, les SMS, parce qu'il écrit un roman jeunesse, etc. Mais en même temps, je voulais pas me priver d'une réalité, quoi, qui est celle de la communication des jeunes.
Il ne pouvait pas utiliser le téléphone, Jules, donc quelque part, il fallait bien qu'il utilise les SMS pour communiquer.
Voilà,
il est sourd, donc...
Et puis un jeune qui écrit un SMS aujourd'hui, il va pas écrire un SMS comme moi j'écris. Employer un... Quoique maintenant, avec les correcteurs automatiques, même dans les SMS, on a tendance aussi à faire peut-être un peu, je sais pas.
Ouais, mais enfin, il y a quand même les abréviations, enfin, je veux dire, les lettres qui donnent des sons, juste une lettre donne un son complet, donc voilà. Et puis il y a la visite aussi, j'ai bien aimé, c'est la visite complètement surprenante pour Jules, il ne s'y attendait pas du tout, celle de son professeur de français qui vient lui rendre visite à l'hôpital et qui lui offre deux livres, dont L'étranger d'Albert Camus.
Et Nobody Owens aussi, je crois. Je crois que c'est mon côté prof qui doit ressortir, parce que je sais.
T'aurais pu choisir prof d'anglais. Là, c'est le prof de français.
Non, parce que
oui, quand même.
Ça aurait fait un peu trop. Mais non, mais parce que je pense que un prof peut faire la différence à un moment donné. Et je crois qu'on a tous vécu cette expérience d'un prof qui vous marque, non pas que les autres n'ont pas fait leur boulot, ils ont fait leur boulot, mais il y en a un qui, à un moment donné, vous a parlé différemment, vous a marqué, et peut avoir une influence aussi. Alors, je reviens toujours à cette idée de mentor. Je pense qu'à un moment donné, un prof peut faire la différence. Et notamment, en termes de lecture ou en termes de considération de soi. Enfin bon. Et je crois qu'il y a beaucoup de profs qui sont conscients de ça et qui font attention à ça. En tout cas, moi, c'est mon cas. Je pense qu'on peut faire la différence. Il faut pas louper ces occasions où un jeune a besoin d'un coup de main à un moment donné.
Puis surtout, il s'y attendait pas du tout. Il aurait jamais pensé à ce prof-là ça qui est encore plus.
On voit les profs comme des espèces de
d'extraterrestres.
Des gens plutôt distants, froids sur une estrade, loin de là. Un prof, c'est très sensible à ce qui arrive aux jeunes. Très, très, très concerné.
Et j'aime bien cette phrase, pour l'importance de la famille, parce que finalement, Jules est très soutenu par sa famille, heureusement, d'ailleurs. Je pense que c'est ça aussi qui va l'aider à avancer, aussi, en même temps que sa famille aussi. Voir sa famille un instant reconstruite, même si c'est dans une chambre d'hôpital, lui procure beaucoup de réconfort. Je pense que c'est important, cette idée de famille autour. Et puis, un passage émouvant aussi, c'est quand Jules leur demande pardon. Ça veut dire qu'il a pris conscience de ce qu'il a fait, de cette bêtise qu'il a faite et qui a amené cet état de surdité, et puis qui emmène ses parents aussi avec lui, parce que, bon, ses parents sont prêts à déménager pour l'emmener dans un centre ailleurs qu'à Toulouse. Enfin bon, ça bouleverse complètement la vie de la famille.
Mais des deux côtés, il y a un message, si vous voulez. Le message aux parents, il est que, mais ils le savent bien, mais on oublie parfois, je sais de quoi je parle, on oublie qu'à un moment donné, les reproches, ça ne suffit pas. Culpabiliser
avec,
et reprocher, à un moment donné, il faut arrêter, parce que
ça ne mène nulle part,
et puis il faut proposer des outils pour rebondir. Mais de l'autre côté, je pense qu'un jeune aussi, et ça c'est un message envers les jeunes de 15-16 ans, on va dire, parce que c'est adressé, c'est l'âge du héros, mais un jeune de 15-16 ans, il a aussi une part de responsabilité, aussi une part de libre arbitre, et à un moment donné, lui-même peut décider d'aller dans une voie ou dans une autre. Et c'est pas parce qu'on est mineur qu'on est exempt de toute responsabilité.
Tout à fait.
Je crois qu'à un moment donné, il faut aussi assumer ses choix et c'est ce que Jules doit apprendre à faire un peu plus rapidement que quelqu'un d'autre, on va dire.
Oui, il est un peu poussé.
Par les événements,
Tout à fait. Et puis donc, il va rentrer chez lui, Jules, et puis justement, ses parents ont aménagé la maison en fonction de son handicap. Il y a même un oncle qui a installé un signal lumineux qui va de la cuisine à la chambre de Jules, parce que la chambre est en hauteur, pour l'appeler pour quand le repas est prêt. Pour qu'il voit le voyant s'allumer et qu'il sache qu'il faut qu'il descende. C'est là aussi, c'est la famille qui fait en sorte que sa vie, son quotidien soit le mieux possible.
Mais je crois, moi, pour avoir observé des familles les familles de gens qui ont un handicap, on se rend compte qu'il y a énormément de dévouement, énormément d'adaptabilité aussi. Les gens font preuve de ressources incroyables pour s'adapter au handicap. Et il y a beaucoup de générosité chez ces gens qui font, dont la vie, finalement, va tourner autour aussi, en partie autour du handicap de leur enfant ou de leurs parents. Enfin, ça dépend dans quel sens c'est. Mais je trouve les gens admirables d'énergie, d'inventivité.
Oui, bon, voilà.
C'est juste le résultat d'une observation autour de moi, je pense.
Alors, donc, ça, comme on le disait, donc, bon, il y a toute l'intrigue policière, donc on ne va pas révéler aux auditeurs. Hein, ils liront le livre.
Ils ont qu'à le lire. Ouais.
Voilà. Jules, bon, la fin est une bonne fin, enfin, est une fin pleine d'espérance. Comme je disais au début de cette émission, Jules va apprendre bien le langage des signes, la langue des signes pour communiquer. Même ses parents et sa sœur vont l'apprendre du coup aussi.
Eh ben voilà, on est embarqué dans l'aventure. Ouais.
Eh oui.
Oui, c'est une fin.
C'est une fin pleine d'espoir, puis positive. Elle est positive. Il a des projets.
Non mais c'était plombé d'entrée, je pouvais pas finir sur quelque chose de plus plombé que ça, donc c'était voilà.
Alors c'est un roman voilà que je recommande à la fois aux ados et à la fois à leurs parents hein, parce que bon
aussi,
c'est
ouais.
important oui moi qui suis parent aussi comme toi voilà c'est quelque chose qui nous qui nous touche hein, qui nous fait peur hein, aussi faut le dire hein, voilà on n'est jamais à l'abri de bêtises de nos enfants pour faire le malin auprès d'une copine ou d'un copain. Voilà,
Nous-mêmes, hein, on fait des bêtises.
Parfois. Non, faut pas le dire. Oui, c'est vrai. Et donc, c'était un beau roman noir, mais voilà, qui traite de thèmes importants, de valeurs importantes, hein, la famille, des thèmes importants, la drogue, bien sûr, mais le handicap aussi. Enfin, voilà, des thèmes et des valeurs qui sont l'amitié, hein, aussi le courage, la force hein, aussi pour accepter un handicap. Donc, tout ça, c'est dans ce livre « Silence » de Benoît Séverac aux éditions Cyros. Alors, est-ce que ce livre jeunesse premier, hein, livre jeunesse, t'a donné envie de continuer avec un autre livre jeunesse ou de revenir entre guillemets à tes amours de polar historique.
Oui, bien sûr, j'ai d'autres idées en jeunesse, mais c'est pas revenir nulle part. C'est toujours le même métier d'écrivain, simplement je m'adresse à des personnes qui sont autres.
Ça serait plus jeunesse.
Pardon.
Le prochain, ça sera plus.
Je sais pas, non, ça je sais pas.
Il y en a pas un qui couve.
Non, il y en a plein qui couvent.
Il y en a plein.
Il y a plein de petits bébés qui couvent partout.
Bah, tu nous tiendras au courant
et tu
reviendras à Radio Occitanie pour en parler. Merci
ton invitation.
Et on va se quitter. Alors la semaine prochaine, on se retrouve toujours à la même heure, jeudi 31 mai à 10h sur Radio Occitanie. Je recevrai Marian Folliot qui était déjà venu nous parler de son difficile travail d'écriture. Il est en train d'écrire un premier roman et tu as dû connaître ça aussi, Benoît.
C'est toujours difficile, voilà. Même pour le deuxième, même pour le troisième.
Et là, donc, il revient nous lire une nouvelle. Et si on sortait ce soir, il viendra nous la lire en direct. Et là, on se quitte. Alors, c'est un petit clin d'œil avec une chanson des Pink Floyd, parce que Jules, peut-être comme toi aussi d'ailleurs, aime Pink Floyd.
Dans le livre, il cite
Pink Floyd. Donc, j'ai décidé qu'on se quitte avec Pink Floyd.
Ouais, merci beaucoup.
Merci, Benoît. Et
merci,
à d'ici.
Au revoir.